Notre spirituel aujourd'hui sera question du fils de la comtesse de Ségur. Ça vous dit quelque chose, mesdames, n'est-ce pas? La comtesse de Ségur, Sophie Rostopchine, comtesse de Ségur, qui est née à Saint-Pétersbourg, qui écrit, vous le savez toutes, et même les hommes le savent, elle écrit de nombreux romans. Comme Mémoire d'un âne, Les malheurs de Sophie, Les petites filles modèles. Un peu tout le monde connaissait ses livres il y a quelques années encore. Il paraît que c'est encore publié et encore lu. Et pourtant, ses ouvrages datent des années 1860 jusqu'à 65. C'est écrit sur une période surtout de 5 ans. Mais c'est extrêmement populaire. Les ouvrages de la comtesse de Ségur, qui était née à Saint-Pétersbourg, elle, en 1799... Elle était la fille du célèbre général Rostopchine. C'est lui qui a incendié Moscou en 1812. Il a brûlé la ville de Moscou pour obliger Napoléon à retourner en France. Dans une retraite qui a été épouvantable. Une retraite désastreuse. On voit ça parfois dans des films. Et c'est tragique de voir ces soldats français en 1812 qui crèvent le long des routes enneigées de Russie. Sophie Rostopchine a épousé le comte Eugène de Ségur. Et puis, c'était une très grande famille, les Ségur, et elle est venue avec lui à Paris, où elle est morte en 1874. Comme je vous l'ai dit, elle a publié ses romans dans les années 60. 1860, elle a publié donc ses romans pour enfants, qui faisait dire à Émile Faguet, elle a su si bien compter qu'elle est morte grand-mère de tous les enfants du monde. Ça résume assez bien qui était la comtesse de Ségur, mais elle a eu plusieurs enfants, dont le Gaston de Ségur, qui est un personnage extraordinaire, qui a été aveugle 25 ans. Je dédie cette émission aux aveugles qui m'écoutent, pour leur redonner courage. Gaston de Ségur, qu'on pourrait appeler le comte Gaston de Ségur, est né le 15 avril 1820. Il est mort le 9 juin 1881. Or, il est devenu aveugle un 2 septembre, à l'âge de 34 ans. Il est né et mort à Paris. Et son père s'appelait Eugène de Ségur, le comte Eugène de Ségur. Et il a fréquenté pendant 6 mois environ l'atelier du peintre Paul de la Roche. Dans une vie de Monseigneur de Ségur par Michel Even, qui est paru il y a déjà quelques années, on dit que le jeune homme, Gaston de Ségur, continuait à avoir Paul de la Roche et profitait si bien de ses conseils que le premier tableau qu'il a exposé au salon de 1841, Portrait de son père, a obtenu la médaille d'or. Il avait donc passablement de talent. Il faisait des tableaux religieux, des portraits de saints, qui sont, paraît-il, pour l'époque, d'une assez belle qualité. Et il y avait un dessin comme ça de Saint-François d'Assise, de Saint-Thomas d'Aquin, du père Liberman, le fondateur de la Congrégation du Saint-Esprit, ce juif converti dont je vous ai déjà parlé. Qui ne serait pas loin, dit l'auteur de cet ouvrage, qui ne serait pas loin d'être des chefs-d'œuvre. Mais je me méfie du goût en art, surtout à cette époque. Ça peut être très académique, mais ça peut être aussi très intéressant, qui sait. Et alors, il s'est mis à l'étude du droit, il était tout jeune encore, hein. Et puis, on le fait nommer attaché d'ambassade auprès du Saint-Siège. Mais après n'être resté à Rome qu'un an, il entre au séminaire de Saint-Sulpice, au début de la vingtaine, puis il est ordonné prêtre par le fameux Monseigneur Affre qui sera assassiné. Il est ordonné à 27 ans. Ce qui est extraordinaire de la part de Gaston de Ségur, c'est qu'avec quelques prêtres apostoliques, c'est-à-dire des prêtres presque enragés, presque tellement saisis par leur sacerdoce comme lui, Ils forment une communauté de ménages, de prières et de toutes sortes de bonnes œuvres. Ils se consacrent à des œuvres de jeunesse. On appelle ça des patronages. Ça existe encore des patros ici au Québec. Les pères de Saint-Vincent-de-Paul ont ça. Et puis, il organise aussi des retraites pour les jeunes apprentis, là, les jeunes ouvriers qui commencent à étudier des métiers. Il s'occupe surtout de cercles catholiques de jeunes ouvriers. Il s'occupe aussi des prisonniers militaires. Et il s'est tellement fatigué qu'il doit renoncer à tout ministère actif pendant une certaine période parce qu'il est devenu aveugle. Il dit même a de la difficulté à dire la messe au début parce qu'il est aveugle, mais il finit par apprendre à la dire par cœur. On dit qu'il ne s'est jamais, n'a jamais fait d'erreur, il n'a jamais renversé un calice, disons, ou il n'a jamais eu de difficulté même à donner la communion, ce qui n'était pas facile, il fallait la donner dans la bouche à cette époque. Il a employé ses loisirs à composer toutes sortes de réponses aux principales objections contre la religion. C'était donc un défenseur de la religion. Il avait le sentiment un peu militaire de ses ancêtres. Il s'est obtenu un succès inouï, au point que le prince président de France, Louis-Napoléon, lui confère la haute fonction, on appelle ça auditeur de rote pour la France, c'est-à-dire tribunal d'appel, la rote. Et puis, l'abbé Gaston de Ségur, donc, séjourne à Rome, en sa qualité, puis, je passe un peu, je vous raconterai tout ça en détail. C'est en 1854, donc il est devenu aveugle le 2 septembre. Et Monseigneur Ségur est obligé d'abandonner son travail, n'est-ce pas, puis de prendre possession de sa maison qui lui appartenait sur la rue du Bac, tout près de là où il y a la chapelle de la Médaille miraculeuse, qui est très populaire à Paris, où les foules se tassent, n'est-ce pas? Et c'est au numéro 39 de la rue du Bac. Il a passé là les 25 dernières années de sa vie en faisant des travaux dont je vais vous parler, qui sont absolument extraordinaires. Son père, Henri, comte de Ségur, était au service du roi Louis XVIII, qui régnait Napoléon, vers 1814-15-16, là. Jusqu'au temps de Charles X. Et sa mère, qui était russe, comme je vous ai dit, s'est convertie au catholicisme. Mais elle avait gardé son ascendance russe. Ça l'imprégnait. Et très vite, Gaston de Ségur, tout jeune, est l'objet d'une véritable passion de la part de sa mère. Quand son père décide de le placer, dès l'âge de 6 ans, en pension complète dans une institution. 6 ans. Ça se faisait. Même quand j'étais jeune, je me souviens, des jeunes de 6 ans étaient pensionnaires. La comtesse de Ségur éprouve donc un déchirement. C'est une femme très sentimentale, qui a beaucoup de caractère. Il faut dire que l'institution de Fontenay-aux-Roses, choisie par son père, ça déplaisait à son épouse, la comtesse de Ségur. Ça déplaisait aussi au petit Gaston. Il s'y déclare dans une lettre, parce que les enfants écrivaient des lettres déjà assez très jeunes, il s'y déclare en prison. Et l'éducation religieuse qu'il reçoit, d'ailleurs, c'est plutôt assez faible. Et puis sa première communion, qui a lieu en 1833, il a déjà un âge assez avancé, il y a 13 ans, ça laisse qu'un souvenir à peu près nul. À 15 ans, Gaston entre au Collège Bourbon, c'est l'ex-lycée Bonaparte, ça. Et puis, il déteste ça. L'affection de sa mère lui redonne un peu de courage. Mais il est bachelier à 17 ans, le 9 février 1838. Il fait des études brillantes et rapides. Il fait la connaissance d'un lointain cousin du même âge, le prince Augustin Kalidzine. Ça aura une belle influence sur lui, ça. C'est lui qui l'initie des façons encore très simples d'aider les pauvres dans une conférence de la Société Saint-Vincent-de-Paul qui vient d'être fondée. Et à cet âge, la piété de ce jeune Gaston de Ségur est incertaine. C'est plutôt, il est une espèce de catholique routinier. Un catholique tiède, quoi. Mais bientôt, l'influence de sa grand-mère, la comtesse Catherine Rostopchine, qui est une femme énergique et de profonde culture religieuse, va s'exercer profondément sur son petit-fils, le jeune Gaston, qui est étudiant en droit déjà, il est tout jeune étudiant en droit, tient une licence le 24 mai 1841. Il a 21 ans. Il est déjà licencié en droit. Et ça amorce une véritable conversion dans son cœur, l'influence de sa grand-mère. Et il se met à l'école de Saint-François de Sales. Alors il se met à communier chaque jour. Et c'est là qu'il entend... Il avait déjà entendu à 18 ans, mais là il entend plus fort l'appel au sacerdoce. Il s'enroule d'ailleurs dans la Société de Saint-Vincent-de-Paul, visite les familles pauvres... visite les hôpitaux, et il fortifie par ce moyen, qui est très important, sa vie intérieure. C'est pas simplement des idées, des livres, des écrits, des ci, des ça, non. C'est poser des gestes. Et il découvre là un monde insoupçonné. Or, son père décide de le faire entrer dans la diplomatie, comme je vous ai dit tout à l'heure, et c'est à l'ambassade de France à Rome où il arrive comme attaché le 1er mars 1842. Donc, il a presque 22 ans. Il a les premiers contacts avec cette ville de Rome qu'on appelle la ville éternelle, qui est bien connue de la comtesse Catherine, sa grand-mère. Et ses premiers contacts sont pas très encourageants. Mais peu à peu, grâce à des rencontres choisies, particulièrement avec des prêtres et des religieux, surtout des jésuites, ses idées changent, il est conquis. Et là, l'unité catholique de l'Église, la continuité de cette grande Église, ça lui devient sensible. Et en février 1843, ce jeune homme, qu'on appelle un fils tendre, qu'on appelle aussi un amateur d'art, peintre, dessinateur, on dit de lui aussi qu'il est un camarade charmant, il se révèle tout à coup... apparaît chez lui, n'est-ce pas, un étrange force de caractère. Il se transforme. Il prend la décision d'entrer au séminaire de Saint-Sulpice pour devenir prêtre, et il résiste à l'assaut de sa famille, particulièrement de sa mère. Il a vraiment décidé de devenir prêtre. Et les journées de séminaire qui sont inscrites dans un règlement d'une austérité stricte, ça pèse pas tellement au jeune Gaston de Ségur, qui est de grande famille, noble et riche. Les études et surtout la formation spirituelle, ça lui convient. Puis, de toute façon, il bénéficie, c'est-à-dire de l'autorisation d'aller visiter les pauvres. C'est pour lui comme un bénéfice, comme il le dit. C'est son directeur, M. Molvaux, qui exerce sur lui une influence décisive. Il l'instruit de la spiritualité de M. Ollier, dont je vous ai parlé, c'est l'émission numéro 437, ça, M. Ollier, fondateur des Sulpiciens. Puis ça l'introduit à l'esprit d'abnégation puis d'anéantissement. Il cultive ça par l'oraison, l'examen particulier, la pénitence. Mais il l'invite aussi, ce qui correspond au penchant naturel de se diriger, à s'immerger dans la douceur et l'humanité de Saint-François de Sales, dont je vous ai parlé, c'est l'émission 389. Et son idéal sacerdotal se précise. Et dans le prêtre, Ségur voit l'homme de Dieu, l'homme intérieur, qui trouve en Jésus-Christ présent en lui toute force et tout apaisement pour devenir et demeurer l'homme des pauvres. Il sera toute sa vie l'homme des pauvres. Alors, Gaston de Ségur reçoit la tonsure, vous pouvez peut-être vous demander, les jeunes, ce que c'est. Il se fait couper les cheveux sur le dessus de la tête, et on le rasait en forme d'un... à peu près de la grosseur d'une grosse hostie, vous avez vu ça à la messe. Et c'est un résidu, si on peut dire, du temps où les prêtres se faisaient raser la tête. C'est d'origine presque égyptienne, les prêtres égyptiens se faisaient raser la tête, les prêtres bouddhistes aussi, hein. Et les prêtres catholiques ont porté longtemps des tonsures assez vastes, assez grandes. À cette époque, elles étaient passablement grandes, d'ailleurs. Donc, il reçoit la tonsure le 1er juin 1844 à 24 ans. Et puis, il reçoit différents ordres. Il devient prêtre à 27 ans. Le 18 décembre 1847, il est ordonné, comme on dit, à titulum patrimonii, c'est-à-dire qu'il ne reçoit aucune nomination dans le clergé paroissial. Il est dégagé de ses obligations. Il y avait pas mal de prêtres déjà et on pouvait se permettre ça. Il élabore donc pour lui-même une règle de vie stricte. C'est un homme décidé à 27 ans. Hein. Prière, travail intellectuel, précaution à prendre contre une parole trop facile, parce qu'il s'exprime avec beaucoup, beaucoup de d'intelligence et de feu. D'ailleurs, dans l'introduction à cette vie de Monseigneur Gaston de Ségur, on peut lire à un moment donné... La physionomie de Mgr Ségur était vraiment complexe. Sous peine de se tromper, il fallait se garder de le juger sur une première apparence. Jamais, peut-être, je n'ai connu, dit l'auteur, je n'ai connu de ma vie un personnage ecclésiastique dont j'ai ouï dire à la fois tant de bien et tant de mal. Mais, avec le recul des années, apparaissent en même temps que les passions et l'envie de ses détracteurs, la pérennité et l'efficacité de tout le bien qu'il a fait. Parce qu'il avait la parole facile et parfois il disait des choses qu'il n'aurait peut-être pas dû dire à certaines personnes qui qui se conduisaient plus ou moins bien. Il se sent appelé vers deux missions fondamentales. Il veut prêcher, convertir le monde, les transformer, les aider à être heureux. Et son autre mission, c'est une très belle mission de prêtre aussi, la confession. Le sacrement de la réconciliation, comme on dit aujourd'hui. Ah, il prend d'abord ses repas chez ses parents et s'installe ensuite rue de Grenelle dans l'intention de s'adonner à l'apostolat des enfants pauvres. Mais il se rend compte bien vite de l'impossibilité d'exercer ce ministère hors d'un minimum de vie de communauté. Il faut qu'il ait de l'aide, hein, ce qu'il réalise en s'établissant avec quatre autres confrères au 32 de la rue Cassette. Je donne les adresses parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ces coins-là de Paris. C'est dans le 6e arrondissement, dans le quartier Saint-Sulpice. Au nombre des prêtres de la communauté figure l'abbé Gay. L'abbé Gay, je vais vous en parler le 18 janvier prochain, ce sera l'émission 771. Ah, quel homme que Monseigneur Gay, futur évêque auxiliaire du cardinal Pie, évêque de Poitiers. Grand cardinal, cardinal Pie. Alors très vite, l'abbé Gaston de Ségur est pris par la confession et la direction. Direction spirituelle. Dans la réflexion spirituelle, les membres de la communauté qui vient de fonder sont maintenus en haleine par une conférence donnée le mardi soir. Et le visiteur, c'est qui? Un saint. Le père Liebermann, ce juif converti, devenu en 1848 supérieur général des pères du Saint-Esprit, dont je vous ai parlé le 2 février 98, c'est l'émission numéro 587. Je donne les numéros, car il y a des gens qui commandent les cassettes à Marc-Alexandre par les numéros, c'est très facile à commander comme ça. Mu par son appel vers les pauvres, l'abbé Gaston de Ségur réunit dans la communauté des enfants, des jeunes gens dépourvus de ressources matérielles et spirituelles, il s'occupe vraiment des plus pauvres. C'est extraordinaire de la part d'un homme comme lui. Hein? Il se met, ça me fait penser à Jean Vanier, qui appartenait à une grande famille aussi dans un certain sens, il se met en rapport avec des œuvres déjà organisées pour la jeunesse ouvrière, ce qui ne l'empêche pas de continuer les visites des pauvres à leur domicile. Hein? Il utilise pour les uns et les autres cette pension annuelle que lui offre sa famille, il a une pension assez substantielle d'argent, des francs en quantité, donne tout ça aux pauvres. Il donne aussi beaucoup de son temps aux prisonniers militaires. Il commence à publier de petits livres, comme je vous ai dit tout à l'heure, des articles en vue de répondre aux objections nombreuses, et le plus souvent simplistes, contre l'Église, la religion et ses pratiques. Comme on en a des objections puis des critiques sur l'Église, puis la religion, puis les pratiques de l'Église à la télévision, dans nos journaux et tout ça aujourd'hui, c'est terrible, ça ne finit plus. Ah, Ce ministère populaire de l'abbé de Ségur prend bientôt fin par la nomination à Rome, n'est-ce pas, comme j'ai dit tout à l'heure, comme auditeur de la Rote, hein, je dis la cour d'appel. Ça lui tente pas du tout, ce genre de travail. Quitter ses pauvres. Il ne se croit pas fait pour cette fonction, hein, il est poussé par son père et des personnes haut placées qui veulent son avancement. Alors, comme je vous ai dit, le prince-président Napoléon nomme Ségur en mars 1852, puis neuf l'accueille avec amitié. Bon, ces informations lui permettent de savoir au pape que Ségur éprouve des sentiments partagés sur une question qui était très discutée à l'époque, le gallicanisme. Mais je passe. Quoi qu'il en soit, Gaston Ségur se considère comme chargé par la Providence de travailler à la restauration de l'unité de l'Église, autour de l'Église de Rome, en servant d'intermédiaire entre les catholiques français, puis ce qu'il appelle le centre de la catholicité. Où est le pape? Parallèlement, il tient à demeurer la peau des pauvres, des enfants. Alors, il collabore avec le fameux Monseigneur Bastide, aumônier des troupes françaises d'occupation. Il donne des conférences, puis là, il publie ses brochures utiles aux soldats qui ignorent tout du passé de l'Église catholique et de Rome. Il justifie le pouvoir temporel du pape. Il est attaché à ça, conservateur sur ce plan-là. Enfin, Gaston de Ségur continue à nourrir et à élever sa vie spirituelle. Et parmi ses travaux importants à Rome, il y a la négociation complexe dont il est officiellement chargé et qui vise à faire adopter, chose étrange, on connaît pas ça, et faire adopter le bréviaire romain par Saint-Sulpice. Les Sulpiciens n'en veulent pas du bréviaire romain à ce moment-là. Une autre affaire dont il s'occupe, c'est l'installation du séminaire français à Rome dans des locaux plus dignes. Et Gaston Ségur devient Monseigneur de Ségur au moment de son affectation comme auditeur à la Rote, puis il quitte Rome avant de réaliser cette affaire. Il est en effet affligé d'une paralysie d'un nerf optique, puis il perd l'œil gauche au début de mai 1853. Et là, à 34 ans, le 2 septembre 1854, il est complètement aveugle. Ça ne l'empêchera pas d'être un prêtre extraordinaire. L'événement l'ébranle, le bouleverse, mais ça ne l'anéantit pas. C'est un homme d'une spiritualité forte, je dirais presque violente. C'est au violent qu'est donnée la sainteté. Dieu, en Jésus-Christ, est venu mettre le feu sur la terre. Et lui, il a le feu qui l'habite, c'est le feu de l'Esprit-Saint. Et sa mission à Rome ne peut se poursuivre. Napoléon III parle de le nommer chanoine du premier ordre au chapitre de Saint-Denis, mais ça lui donnerait un traitement substantiel pour survivre comme aveugle. Mais Monseigneur de Ségur n'est pas évêque. Puis aveugle, il ne peut le devenir d'ailleurs. En fin de compte, c'est Pie IX qui le nomme protonotaire apostolique et lui attribue des insignes, des privilèges d'honneur propres aux évêques. Alors Monseigneur de Ségur quitte Rome en 1856. Il est mal reçu à Saint-Denis, là tout près de Paris, par le chapitre des chanoines. Il est nommé par l'empereur chanoine dignitaire, puis il va figurer là jusqu'à sa mort en 1881, parmi les chanoines évêques. Après 27 ans de cécité, hein, 27 ans, là, où il a été aveugle. Monseigneur Ségur a été obligé de se prendre un secrétaire qui change souvent parce qu'il dicte trop vite. Parce qu'il peut plus écrire. Il suit un règlement de vie austère. Il dicte énormément avec une méthode fantastique, hein, des lettres, des articles, des livres, il reçoit de nombreuses visites, puis il confesse 3 jours par semaine. Mais être aveugle, ça lui coûte, parce qu'il dépend toujours de quelqu'un. Mais il a le sens de l'humour et il sait en rire. Il publie donc des brochures, toutes sortes de choses. Et puis il y a des protestations qui fusent contre Ségur, au sujet de certains de ses écrits. Il s'attaque à la franc-maçonnerie, alors les francs-maçons sont enragés. Et puis, il publie, pour renseigner le plus grand nombre, cette brochure intitulée « Les francs-maçons, ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent », 120 000 exemplaires. Il y dénonce Les francs-maçons semblent être toujours très objectifs, tellement ils s'emportent. Monseigneur de Ségur semble bien avoir été menacé de mort, d'ailleurs, en avril 1869, pour cette publication. Il se fait plus prudent, mais il cesse pas ses attaques, et durant la guerre, le fait d'être aveugle l'empêche de rendre des services dans les hôpitaux. Il se réfugie chez sa sœur, près de Sainte-Anne-d'Auré, le fameux lieu de pèlerinage à Sainte-Anne, en Bretagne. Il s'inquiète des jeunes qu'il a laissés à Paris. Monseigneur de Ségur, dont je vous parle aujourd'hui, le fils de la comtesse de Ségur qui a écrit Les Malheurs de Sophie et tant de romans qui ont enchanté bien des personnes qui m'écoutent et qui sont d'un certain âge, et même peut-être des plus jeunes, des romans pour jeunes filles. Mais il paraît que même des jeunes garçons qui autrefois lisaient ça avec beaucoup d'intérêt. Et toute sa vie, le fils de la comtesse de Ségur, Monseigneur Gaston de Ségur, rayonne, dit-on, d'un grand esprit de religion, comme on disait dans ce temps-là. L'un de ses fils spirituels le présente de cette façon-ci, en trois lignes, cœur généreux, caractère énergique, nature ardente, doux comme saint François de Sales, humble comme saint François d'Assise, charitable comme saint Vincent de Paul. Monseigneur de Ségur est fort sensible, sans être triste, et pourtant, les contrariétés et les souffrances ne lui ont pas manqué. Cet amour plutôt excessif de sa mère, il l'a dominé de son mieux. Mais lors du décès de sa mère, la comtesse de Ségur, en 1874, il ne s'est pas abattu, mais il a plié, ça lui a fait un chagrin immense. Sa gaieté naturelle, on a eu l'impression que ça ne lui est jamais revenu aussi rayonnante qu'avant. Il avait toujours un fond de chagrin de la perte de sa mère. Il avait déjà été durement éprouvé par le décès, quelques années plus tôt, 6 ans plus tôt, de sa sœur Sabine, et qui était visitandine, une sœur de la Visitation fondée par Sainte-Jeanne de Chantal. C'est à ce moment-là qu'a commencé, sa santé a commencé à s'affaiblir d'ailleurs. Il va devenir aveugle. Il écrit à des correspondants de belles lettres sur la souffrance physique et morale d'ailleurs. Il y a de très beaux textes de lui. Et pendant la guerre de 1870 en France, dans les consolations à ceux qui souffrent, c'est comme ça qu'il a intitulé un petit livre qu'il a écrit, il trouve l'occasion d'écrire comme François de Sales. Que devant le chagrin ou la peine, la sienne comme celle des autres, il est quant à lui tant homme que rien plus. C'est-à-dire que on est toujours un être humain devant les chagrins. On est affligé parfois, on a de la peine. Mais un chrétien sait toujours que Dieu est là, et Dieu ne l'abandonne jamais. Du fond de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur. Mais on sait très bien que Dieu ne nous abandonne pas. Jésus le savait en croix. Il était Dieu lui-même. Il ne s'est jamais senti abandonné par son Père. Il ne fait que réciter un psaume en croix. Mais il s'identifie à cette douleur. Gaston Ségur était prompt à admirer. Mais il s'indigne aussi. De sa mère, il tient une certaine démesure naturelle, un peu à la russe, même dans le langage. Cette faiblesse le conduit parfois à certaines imprudences. Il y a des démêlés avec l'archevêque de Paris, Monseigneur Darbois, très connu au 19e siècle. Une espèce de dispute terrible. Il commet une imprudence de langage, ça va lui coûter cher d'ailleurs. Il a une austérité fantastique, cet homme de grande famille. Imaginez qu'il couchait sur une paillasse qu'il avait placée, une paillasse, de la paille, là, dans du tissu rude, et qui reposait sur une planche. Il l'avait déposée sur une planche. Ses repas, c'était frugal, presque rien. Il ne faisait jamais de feu dans sa chambre, et Dieu sait qu'il fait froid à Paris en hiver. Il devait geler, mais c'était comme ça. Il portait des vêtements pauvres. Il les usait jusqu'à la corde. Et par ses qualités de cœur également, comme en témoigne sa fidélité dans ses amitiés, il y avait le fameux compositeur Gounod qui l'appelle « mon très cher père Gaston ». Il y avait Louis Veuillot qui l'aimait beaucoup, Madame Swetchine aussi. Le fameux Monseigneur de Mérode, dont Gréat, qui a fondé les chanoines réguliers de l'Immaculée Conception, que nous avons ici encore, je crois qu'il en reste, c'est dommage qu'il n'ait pas pu grandir plus que ça. Ils ont une librairie, le service de documentation pastorale. Mais surtout, la doctrine et la vie spirituelle font de Monseigneur de Ségur un des grands spirituels du 19e siècle. La doctrine de base de Monseigneur de Ségur, elle s'élabore fermement sur la grâce et l'Esprit Saint en nous. Et la foi, qui est la première des grâces. Croire, mais croire vraiment. À cette époque, les prédicateurs parlent peu de ces réalités pourtant capitales, la vie de l'Esprit Saint en nous et la foi vivante. Les fidèles ne comprennent donc rien à tout ça. Monseigneur de Ségur, lui, s'efforce, par des brochures et des livres, c'est une œuvre de vulgarisateur, plus que de théologien qu'il fait, il s'efforce d'appréhender fondamentalement ce qu'on appelle le dogme de la grâce. Il veut le faire, comme il dit, religieusement et amoureusement, afin que s'en pénètrent les personnes versées dans les choses de la piété. Disons qu'ils veulent vivre avec Jésus-Christ pleinement et entièrement et mettre l'Évangile dans leur cœur pour que ce soit vrai. Il veut travailler pour que les commençants, les jeunes gens, les simples ouvrières comprennent quelque chose. Pour lui, les prédications courantes ou exceptionnelles pêchent par la faiblesse de leur base doctrinale. Il dit que les prêtres n'enseignent pas la vraie doctrine, ils se contentent d'être superficiels à cette époque. Le naturalisme l'emporte, dit-il. Le naturalisme qui l'emporte. Il dit que l'homme du 19e siècle ignore son rang de fils de Dieu. Monseigneur de Ségur veut les fortifier, en théorie puis en pratique. Alors la théorie va viser à l'exactitude de l'enseignement vivant traditionnel de l'Église. La pratique l'emporte, qui doit viser à l'union, dit-il, déifique avec Jésus-Christ. En arriver à ce que la vie divine soit vivante en nous. Monseigneur de Ségur veut former cette union avec les fidèles, au-dessus, au-dedans, par la grâce, puis au-dehors par l'Eucharistie. La responsabilité des prêtres en ce domaine est considérable, dit-il. Il leur faut lire et relire la Bible et l'Évangile. Il dit qu'il faut que les prêtres se pénètrent de l'exemple des saints. Il dit que ces deux nécessités appellent des dispositions d'humilité, de simplicité, de pureté de cœur de la part des prêtres. Alors, le Christ se manifeste, et le prêtre, qu'est-ce qu'il devient? Puis le fidèle? Bien, le prêtre et le fidèle font avec le Christ une expérience d'amour, dit-il. Une expérience d'amour, beaucoup plus qu'un effort de raisonnement intellectuel, dit-il. C'est la méthode de François de Sales, qui apparaît ici en toute clarté. Alors il enseigne aussi par le livre. Il en écrit 8 sous le titre « La piété et la vie intérieure ». Il y a des défauts de composition, des redites. Mais l'auteur, qui est aveugle, doit dicter, après avoir entendu de son secrétaire la lecture d'une documentation abondante, car tout ça est fait par un aveugle. Il considère d'abord quelques notions fondamentales. Il y montre que la piété diffère de la religion en ce qu'elle considère Dieu comme un père, qu'on aime. Avec qui l'on vit, on vit, jour et nuit, d'une union intime. Tandis que la religion voit Dieu comme un créateur qu'on adore. Alors, c'est la piété qui transforme. Hein? Ce premier pas, seul, appelle une véritable vie intérieure, dit-il. possible à tous, les religieux, les prêtres, les laïcs, comme l'enseignait déjà François de Sales. Et bien entendu, cette piété, la vraie piété, ça sera pas égoïste, elle appelle l'amour du prochain. Ça dirige vers le prochain, une vraie piété. On se contente pas d'être assis dans un banc près d'une colonne. Elle sera douce, cordiale, aimable, tout en réagissant contre les dévotions sentimentales. En réagissant aussi contre l'imprudence dans le zèle, il s'agit pas de se faire mourir. Une étude sur le renoncement vient ensuite, et Monseigneur de Ségur y appelle l'attention sur le travail de déblaiement nécessaire à l'âme pour recevoir la doctrine et en profiter. Et je pourrais vous faire l'analyse des différents volumes. C'est superbe, c'est très beau. C'est magnifique. Il parle aussi de nos grandeurs en Jésus, puis le chrétien vivant en Jésus. Il montre que Jésus ne vit pas sans l'homme. Le renoncement est la lutte contre la triple concupiscence. Et pour nos grandeurs en Jésus, il y a un enthousiasme débordant chez lui quand il parle de ça. Et ses études montrent le chrétien transformé par la grâce, le chrétien déifié, comme il dit. Jésus, dit-il, embrase et sanctifie tout ce qui est déjà bon, purifie ou détruit tout ce qui est mauvais. Il faut donc le laisser pleinement vivre en nous, dit-il. Faisant le fidèle membre de son Église, Jésus le conduit à aimer son prochain, mais aussi à aimer cette Église qu'il anime, comme il anime la création dont il est le roi. Et à la suite du Christ, un chrétien doit faire figure de lumière. Lumière doit faire figure aussi de justice. De justice, être juste dans le partage de ses richesses ou de ses biens, de son temps. Il doit faire figure aussi de sagesse, car le Christ s'est fait, dit-il, notre sagesse. En pratique, la sagesse, c'est ce qu'est Jésus. C'est ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il aime. Alors évidemment qu'il s'inspire surtout de l'Écriture. Il a une dette fondamentale aussi aux grands écrivains de l'Église à travers les siècles. Aussi bien d'Ignace d'Antioche pour commencer, la liste, jusqu'à Ignace de Loyola, etc., etc. Cette dette fondamentale lui permet d'avouer qu'il est un emprunteur. Et il déclare, j'aime bien ça, que sa vocation écrivassière le conduit à voler le bien d'autrui, comme je fais d'ailleurs, pour se l'approprier, s'en revêtir et en vivre, dit-il, tout en assurant que sa façon à lui est de méditer ses profondes analyses afin que les toutes petites gens puissent s'en régaler. C'est un excellent directeur d'âme aussi, hein, il confesse, il dirige de très nombreux prêtres, mais aussi des enfants, des adolescents, des étudiants et des soldats. Monseigneur de Ségur aide enfin des adultes en responsabilité, des industriels, des hommes politiques. Il ne néglige rien dans la société. Tout le monde lui est cher. Pour mener correctement cette entreprise, bien, il estime qu'il doit demeurer humble. Doux, patient, il a de la misère avec ça. Il ne cherche que Jésus-Christ dans la conduite des âmes. Le directeur, dit-il, doit être guide et conseiller, jamais maître. Voici ce qu'il écrit. Vous demeurerez toujours libre d'agir et responsable de vos actes. Il s'agit de discerner le vrai, d'agir par suggestion. Le directeur spirituel, le directeur d'âme, un bon prêtre doit s'effacer quand son rôle n'a plus de raison d'être. Alors les moyens, d'abord une bonne préparation, plus facile à réaliser chez les jeunes. Connaître les goûts des jeunes, leurs aptitudes, afin de bien discerner les appels possibles à l'état de mariage, du célibat consacré, ou merveilleusement du sacerdoce. Nous manquons de prêtres. Vous, les jeunes qui ne savez quoi faire de vos vies, qui avez la foi vivante, pensez au sacerdoce. Cet homme aveugle, Monseigneur de Ségur, est extraordinaire. Il conseille les sacrements, plus particulièrement l'Eucharistie, la pénitence, c'est-à-dire le sacrement de la réconciliation, sont des deux canaux de grâce qui nourrissent l'âme. Il est précurseur de Saint Pie X, car Monseigneur de Ségur réclame la communion pour les enfants. Moi, j'ai fait ma première communion à 6 ans, et on savait ce qu'on faisait. Il croit que la communion chasse le scrupule et broie la tristesse et la contention chez les enfants. Chez les adolescents, il pense que la communion doit être fréquente. Elle leur fait aimer la perfection. Oui, la communion fortifie la foi des adolescents. Bien entendu, une place de choix sera réservée à leur raison mentale, la prière. Celle enseignée dans l'introduction à la vie dévote par saint François de Sales. Il insiste sur la préparation par la lecture, la méditation de l'Évangile, le recueillement, la mise en présence de Jésus vivant en soi. Il insiste beaucoup là-dessus. Se mettre en présence de Jésus vivant en soi. L'oraison n'est pas une affaire d'étude. Il dit que c'est une affaire d'amour. Inutile d'entreprendre un travail de recherche ou d'imagination, dit-il. Il faut simplement se laisser dépouiller de son sens propre et devenir ainsi un instrument dans la main de Dieu. Cela n'est possible qu'en s'aidant soi-même, donc en imitant Jésus-Christ dans la quotidienneté des jours. L'apostolat de Ségur auprès de la jeunesse ouvrière, ça le prédispose à recevoir une charge étonnante, lui qui est aveugle, de président de l'Union des associations ouvrières catholiques. Il déclare à un moment donné, « Nous ne serons les sauveurs des ouvriers que si nous savons être des saints. » Alors l'apostolat de Ségur s'oriente aussi vers la jeunesse étudiante, pas seulement la jeunesse ouvrière. Il reçoit les jeunes gens. Il est extraordinaire avec les étudiants. Il met le plus grand soin à la réflexion sur la formation du clergé aussi. Son fils spirituel, l'abbé Henri Chaumont, a l'idée de faire pénétrer dans le monde l'esprit de saint François de Sales. Et Monseigneur de Ségur l'approuve. Et il le conseille. Alors l'abbé Henri Chaumont, qui est vicaire d'abord à Saint-Marcel puis à Sainte-Clotilde, s'appuie sur une ancienne élève du monastère de la Visitation de Metz, Madame Carré de Malberg, pour créer, en 1872, les Filles de Saint-François de Sales, une association de personnes du monde sans caractère officiel, sans vœu, mais qui exerce les autres autour d'eux, à une véritable perfection religieuse. On nous dit souvent qu'au 19e siècle, il se passait rien. Il se passait des choses merveilleuses, hein, vous voyez? Alors il lui fallait, le jour où l'abbé Chaumont viendrait à disparaître, des prêtres, imbus de la spiritualité salésienne. Alors il forme un groupe de prêtres. Et quand il meurt, il y en a 100 prêtres qui sont pris par l'esprit de Saint-François de Sales, qu'il leur a transmis. Dans le domaine de la piété eucharistique, Monseigneur de Ségur a également marqué son temps. Saviez-vous, selon les enseignements du Concile de Trente, là, Monseigneur de Ségur souligne la nécessité de défendre l'essence du catholicisme par une grande extension des œuvres eucharistiques. En particulier, quoi? L'adoration perpétuelle fondée vers 1848-49 par Monseigneur de la Bouillerie. Alors, il donne à cette œuvre des subsides importants puisqu'il a de l'argent, il vient d'une grande famille. Alors, il multiplie les prédications puis les sermons sur l'Eucharistie, nourriture et remède de l'âme, dit-il. Alors naît alors l'idée, écoutez bien, des congrès eucharistiques. Et Monseigneur Gaston de Ségur aide de ses conseils les organisateurs potentiels. Et en raison des événements politiques de 1879, là, rien n'est possible à ce moment-là. Mais 2 ans plus tard, en 1881, Monseigneur de Ségur est ici et il préside le comité préparatoire, lui qui est aveugle toujours, le comité préparatoire à la tenue du premier congrès eucharistique international qui s'ouvre à Lille en juin. Trop tard, il est vrai, pour qu'il envoie l'ouverture, car il meurt à 61 ans le 9 juin. Il a fondé et soutenu des œuvres qui ont continué avec lui. Il a tellement fait. Il s'est employé à détruire le conformisme pharisien, le scrupule, le rigorisme, l'esprit de crainte. Comment ça? Il a tout remplacé ça par l'amour. Cessez d'avoir peur de Dieu puis de craindre. Il est pas méchant, Dieu. Il nous aime. Et c'est en se donnant à son amour qu'on se transforme. Faut pas avoir un conformisme de pharisien, du scrupule, du rigorisme. Il chasse l'esprit de crainte, il les remplace par l'amour. Il a su tirer tellement de pauvres de la misère. Il a tiré des infirmes du désespoir, des soldats de l'ennui, des bagnards de l'abandon. Il a sorti des jeunes apprentis et des ouvriers de l'indifférence morale. Il transforme tout ce monde-là en apôtres de leur milieu. Il intéresse des prêtres à pénétrer plus profondément la science religieuse, mais aussi à rechercher une plus grande union avec le pape et avec l'Église. Monseigneur de Ségur est un homme tellement merveilleux, tellement extraordinaire. Après sa mort, cet admirable prêtre, qui venait de disparaître, était revêtu de ses ornements sacerdotaux. Il était recouvert par-dessus cette tunique franciscaine de laine cendrée, car il était tertiaire. Il appartenait au troisième ordre des franciscains, l'ordre des laïcs et des prêtres séculiers. Il était recouvert par-dessus cette tunique franciscaine de laine cendrée, de sa soutane violette de prélat romain, d'une chasuble blanche. Il avait les pieds nus comme ceux du grand pauvre d'Assise, qu'il avait tant aimé. Il portait la mitre et était exposé sous son tableau de l'enfant Jésus. Il avait droit au port de la mitre. Il portait la mitre et était exposé sous son tableau de l'enfant Jésus à la crèche, sur le petit lit de fer qu'il avait supporté pendant sa maladie. On commença à défiler devant ce cadavre, en lui rendant les hommages les plus touchants. Et le vendredi 10 juin, le docteur Ingigliardi et un de ses amis enlevèrent son cœur, qui fut, comme il l'avait demandé, embaumé et porté à la Visitation, le monastère des Visitandines, auprès de celui de Madame de Ségur. Enfin, le 13 juin, eurent lieu les obsèques à Saint-Thomas-d'Aquin, à Paris, dans le 6e arrondissement, ça. Une église un peu cachée, là. Et oh, ça vaut la peine d'aller là, on y prie bien. Et les funérailles furent un véritable triomphe. C'est Gounod qui tenait le grand orgue. Monseigneur Richard donna l'absoute. Quelques jours après, le corps, qui avait été déposé dans les caveaux de Saint-Thomas-d'Aquin, fut conduit au chemin de fer et est parti pour Sainte-Anne-d'Auray, en Bretagne. Le vendredi 17 juin, il fut conduit processionnement à l'église de Pluneret, où l'attendait Monseigneur Bessel, évêque de Vannes, en Bretagne toujours, et un nombreux clergé. Après une nouvelle absoute, 8 prêtres en étole ont porté le cercueil au cimetière. Dans l'enclos réservé, assez vaste pour contenir 12 tombes, et que ferme une grille, sont maintenant dressées 3 statues, au fond Notre-Dame de Lourdes, à droite Saint-François d'Assise, et à gauche Saint-François de Sales, et c'est là que fut déposé auprès de sa mère ce saint évêque, ou presque évêque, sous une grande dalle en granit. Sur la croix sont gravés ces mots, « Jésus, ma vie et mon amour. » Qu'est-ce qu'il disait en particulier? Il disait à un jeune homme, la sainteté d'un pauvre enfant, d'un humble apprenti, d'un jeune homme obscur et presque inconnu, pèse dans la balance de la miséricorde autant et quelquefois plus que la sainteté d'un grand personnage. Vous savez que le bon Dieu aime les petits et les pauvres. Mettons-nous-y donc, tous bien résolument, évitons comme le feu tout péché volontaire, surtout ceux qui offensent le plus profondément la très pure majesté de Dieu. Soit le blasphème, l'oubli de la prière, la violation du dimanche, les péchés de scandale et de libertinage des mœurs, gardez-vous bons et purs, et allez puiser dans de bonnes et fréquentes confessions et communions la force sans laquelle vous ne pouvez rester ni fort, ni bon.